Yves Elguarche, qui va nous parler de l'énigme du théorème de Fermat et de sa solution. Yves Elguarche est né en 1936 à Angers. Il a fait des études de mathématiques à l'École normale supérieure, mais aussi des études au Conservatoire national supérieur de musique, des études musicales. Il a enseigné aux universités d'Orsay, de Besançon et de Caen, où il s'est fixé à partir de 1970. Il est actuellement professeur de mathématiques à l'université de Caen. Il est l'auteur de « Destin de l'art et dessin des sciences », acte du colloque de Caen, 86, « Vers une arithmétique nouvelle » dans des revues de mathématiques, « Invitation aux mathématiques » de Fermat-Wiles, « Masson, 1997 », et bien sûr, il est la personne qualifiée chez nous pour parler du théorème de Fermat. Donc je lui donne la parole pour 45-50 minutes et ensuite vos questions. Merci.
Bien, pendant 45 ou 50 minutes, je vais vous parler du théorème de Fermat. Il s'agit d'un sujet malheureusement très technique. Par conséquent, il est absolument certain que je ne pourrai pas tout vous expliquer en trois quarts d'heure. Et vous ne pourrez non plus, naturellement, pas tout comprendre. Vous trouverez un peu dans la situation d'un mélomane qui irait écouter un récital de Lieder de Schubert, qui ne connaîtrait pas l'allemand. Bien, alors on peut comprendre la musique sans comprendre toutes les paroles, et c'est ce que je vous souhaite. Bien, alors pendant 350 ans, le théorème de Fermat, le soi-disant théorème de Fermat, était une énigme qu'on a essayé de vérifier de pas à pas. Alors, en 83, on l'a vérifié jusqu'à un million d'exposants. En 92, on est allé jusqu'à 4 millions d'exposants, mais il faudrait aller jusqu'à l'infini, et ça, c'est vraiment très peu par rapport à l'infini, comme dirait Pascal. Et au début du 19e siècle, toutes les affirmations de Fermat avaient été démontrées, sauf celle-là. Enfin, bon, c'est pour ça qu'on l'appelle le dernier théorème de Fermat. C'est parce que c'est le seul qui n'est pas encore été démontré récemment. Bien, alors, dans les années 70, il était de très bon ton de penser que ce n'était pas un problème intéressant. Même en 83, un très célèbre mathématicien avait dit que c'était un problème isolé, qui ne méritait pas le statut de paradigme significatif, enfin d'énigme significative. Et dans les années 70, on pensait qu'il était soit faux, soit indémontrable. Et peu de gens pensaient que l'assertion de Fermat pouvait être vraie. Par exemple, aujourd'hui, on voit qu'il y a un changement brutal de la perception. Tout le monde sait que le théorème de Fermat a été démontré. Et puis, de sujets considérés comme inintéressants par la plupart, un assez grand nombre de grands mathématiciens, il est devenu un sujet extrêmement populaire. Il suffit de voir le nombre d'auditeurs qui viennent écouter la conférence. Bien, alors en trois quarts d'heure, je vais d'abord parler brièvement de la nature de l'assertion de Fermat, parce que très longtemps ce n'était qu'une assertion, ce n'était pas vraiment un théorème. Et puis dans la deuxième partie, la partie B, je parlerai de la stratégie de la preuve qui a permis de démontrer ce théorème. Alors je présente rapidement le plan d'exposé. Donc, on commence par la nature de la preuve et ensuite, on parlera de la stratégie. Bien. Alors, nature du problème, Fermat est né en 1601 à Beaumont-de-Lomagne et il est mort à Castres en 1665. Alors, on estime que c'est au milieu de sa vie, vers 1637, à peu près à l'époque du discours de la méthode, que Fermat a écrit dans une marge d'un exemplaire des arithmétiques de Diophante qui venait de paraître. C'était une traduction nouvelle d'un contemporain de Fermat appelé Bachet de Mézyriac. Il a écrit sa fameuse assertion. Alors, la page en question, c'était une page où Diophant disait que il proposait au lecteur de diviser, entre guillemets, un carré en somme en deux carrés. C'est-à-dire, par exemple, d'écrire en prenant le carré 25, eh bien, est-ce que on peut écrire que 25, c'est la somme de deux carrés, donc ça serait 4 carrés plus 3 carrés. Voilà. Alors, c'est parfois possible, c'est même très souvent possible, mais Fermat avait mis en marge, si on remplace les carrés par des cubes, c'est impossible, si on les remplace par des puissances quatrièmes, c'est impossible, et ainsi de suite jusqu'à l'infini. Une puissance énième ne peut pas être la puissance énième d'un nombre entier ne peut pas être divisée, entre guillemets, en somme de deux puissances énièmes de nombre entier. Et en fait, il a réitéré cette affirmation plus tard, mais simplement dans le cas des puissances quatrièmes et des puissances et des cubes, des puissances troisièmes. C'est-à-dire qu'il a réitéré au moins deux fois cette affirmation. Et il a laissé la méthode de sa démonstration pour les puissances quatrièmes, c'est-à-dire pour les bicarrés, comme il disait à l'époque. C'est effectivement une démonstration extrêmement astucieuse, mais on n'a pas de trace de sa démonstration pour les cubes. Bien, alors l'affirmation de Fermat était paradoxal et étrange pour ses contemporains, parce que ses contemporains s'intéressaient beaucoup plus aux grandeurs qu'aux nombres entiers. Ça paraissait vraiment très puéril, enfantin, de s'intéresser aux nombres entiers, alors que les grandeurs étaient une chose plus noble aux yeux des contemporains de Fermat. Si on s'intéresse au même problème avec des cubes. Si on veut, par exemple, diviser 5 au cube en somme de 2 cubes, au sens où l'entendait Fermat, en nombre, en grandeur, il n'y a aucun problème. C'est ce qu'on appelle les nombres réels, il n'y a aucun problème. À notre époque, on a une infinité d'autres classes de nombres qui ressemblent aux nombres réels et qu'on appelle les nombres péadiques. Et on peut faire la même opération avec des nombres péadiques, il n'y a aucun problème. Donc, l'assertion de Fermat est une assertion d'impossibilité. Un problème est impossible, mais à notre époque, on dit qu'il est localement possible, partout localement possible, c'est-à-dire qu'il est possible en nombre réel et en nombre péadique, quels que soient les nombres péadiques. Donc, c'est uniquement pour les nombres entiers qu'il y a un blocage et qu'il y a une impossibilité. Donc, pour faire une démonstration, et c'est ce qu'a fait Fermat effectivement pour les puissances quatrièmes, il faut être capable de raisonner non pas avec seulement un nombre fini de nombres premiers, mais avec tous les nombres premiers à la fois et éventuellement même aussi les nombres réels. Bien, alors on peut imaginer d'autres problèmes qui seraient localement impossible, et à ce moment-là, il deviendrait très facile. Alors, je vais en écrire un au tableau. Je ne prends pas de risque, je mets n supérieur ou égal à 3, et d'ailleurs c'est le cas qui intéressait Fermat. Eh bien, ça c'est un problème localement trivial, enfin, il est complètement impossible localement, c'est-à-dire si vous regardez cette équation dans le corps des nombres dyadiques, qui ressemble au corps des nombres réels, eh bien vous avez une impossibilité. Or, Fermat a évité naturellement de poser cette équation parce qu'il aimait beaucoup faire sécher ses contemporains. Et si vous regardez ce portrait de Fermat, vous pouvez voir qu'il a l'air effectivement assez pince sans rire. Enfin bon. Donc il ne posait que des problèmes difficiles. C'est quelqu'un qui savait, qui avait un sens très aigu de la difficulté d'un problème. Bien, alors une chose que Fermat n'a sans doute pas faite, c'est de donner une interprétation géométrique à son problème. Alors, je vais le faire au tableau et montrer un peu comment on peut donner une interprétation géométrique. Alors, je suppose que l'exposant est un nombre premier impair. C'est vraiment l'essentiel de la démonstration, c'est lorsque P est impair. Et en faisant quelques petites manipulations, on se ramène à une équation de ce genre-là. À résoudre en nombre entier. Alors, il s'agit en fait de l'équation projective d'une courbe qu'on a écrite en coordonnées, comme on dit, homogènes. Les exposants sont les mêmes pour les trois termes. Et on peut vouloir construire la courbe. Alors, voici les axes de coordonnées. Je pose x égale grand X sur Z, y égale grand Y sur Z, et je vais dessiner un modèle affine de la courbe. Alors, la courbe passe par le point moins 1, 0, par le point 0, moins 1. Là, la tangente est verticale. Là, la tangente est horizontale. Et la courbe traverse la tangente. Et elle admet une asymptote. Alors l'asymptote, c'est la droite, c'est la deuxième bisectrice. Voilà. Donc la courbe en question a cette forme-là. Ça montre qu'on peut trouver une infinité de points réels qui vérifient cette équation. Mais ce que dit l'équation de Fermat, c'est qu'il est impossible de trouver des points rationnels qui soient sur cette courbe, sauf, bien entendu, les points qui sont là. Alors on appelle ça le point à l'infini sur l'asymptote. Donc il y a trois solutions triviales. Ce sont les solutions 0, 1, moins 1, moins 1, 0, 1, et ensuite 1, moins 1, 0. Donc l'assertion de Fermat dit qu'il y a trois points rationnels sur la courbe. Et trois points seulement. S'il avait pris l'autre courbe, où il y avait des puissances de 2, il n'y aurait pas un seul point rationnel, c'est pour ça que ça serait beaucoup plus facile. Bon, alors cette assertion de Fermat n'est qu'une goutte d'eau dans un océan d'assertions semblables. Et il y a une autre conjecture qui est un peu plus difficile que même assez sérieusement plus difficile que la conjecture de Fermat, qu'on appelait la conjecture de Dienesch. Et c'est relatif à la courbe XP plus YP plus ZP plus 2ZP égale 0. Alors ici P est supérieur ou égal à 3. Pour P égale, supérieur ou égal à 3. Et la conjecture de Dienesch dit que la courbe de Dienesch DP, celle-ci, je vais l'appeler FP. La courbe de Dienesch DP n'admet que deux points triviaux, points rationnels triviaux. Et ces points sont les points, le même point à l'infini, 1, moins 1, 0, et le point à distance finie, qui est naturellement 1, 1 et moins 1. Alors, je vais montrer sur un transparent l'ensemble de ces courbes. Elles se ressemblent beaucoup, mais bien que les courbes se ressemblent, la difficulté du problème n'est pas du tout la même pour la courbe de Fermat et pour la courbe de Dirac. Alors, la courbe de Dirac est en pointillé, la courbe de Fermat est en... Bon, ça va, non, on ne peut pas fermer. Bon, la courbe de Fermat est en plein, et puis la droite, c'est l'asymptote qui n'appartient pas aux courbes. Évidemment, la droite contient beaucoup de points rationnels. Et elle est absolument dehors des limites de l'épure. Bien, alors maintenant, je vais parler de la stratégie de la preuve de l'assertion de Fermat. L'origine de cette stratégie remonte aux années, à la fin des années 60, au plus tard. À la fin des années 60, l'assertion de Fermat n'était absolument pas à la mode, mais la théorie des courbes elliptiques était au contraire extrêmement à la mode. Et la nouvelle approche vient de la théorie des courbes elliptiques. Alors je vais essayer de vous expliquer, pour commencer, ce que c'est qu'une courbe elliptique. Alors, une courbe elliptique rationnelle, est une cubique, c'est-à-dire c'est une courbe algébrique qui rencontre une droite en trois points, distincts ou confondus, réels ou imaginaires. Et on demande à la cubique d'avoir des coefficients rationnels. Mais ça ne suffit pas du tout pour être une courbe elliptique. Pour être une courbe elliptique, il faut en plus que l'ensemble qu'on appelle E de Q, c'est l'ensemble des points rationnels de la courbe, on veut que E de Q ne soit pas l'ensemble vide. Autrement dit, il faut qu'il y ait au moins un point rationnel sur la courbe. Ce qui exclut absolument, par exemple, une courbe comme x3 plus 2y3 plus 4z3 égale 0. Ça, ce n'est pas une courbe elliptique. Bien, ensuite, il faut que cette courbe elliptique, cette cubique, n'ait pas de points multiples. Donc, une cubique qui ressemblerait à ça ne serait pas une courbe elliptique. Ce genre de cubique, c'est y de z égale moins x3 égale 0. Bien, alors, une fois que ces deux conditions sont vérifiées, eh bien, on a effectivement une courbe elliptique. Alors, bien, parmi les courbes elliptiques qu'on a déjà vu, il y a la courbe de Fermat pour P égale 3 et la courbe de Dienesch pour P égale 3. Donc F3 et D3 sont des courbes elliptiques. Mais naturellement, F5 et D5 ne sont pas des courbes elliptiques parce que ce ne sont pas des cubiques. Alors, une autre courbe elliptique, c'est la courbe y de z moins yz2 égale x3 moins x2z qui, en coordonnées affines, s'écrit y2 moins y égale x3 moins x2 en prenant un modèle pour lequel z est égal à 1. Alors, j'ai représenté cette cubique sur un transparent. voilà. Elle ressemble à ça. C'est une courbe en un seul morceau. Et alors, on ne voit pas très bien sur le transparent, mais elle possède quatre points rationnels absolument évidents. Il y a ici un petit carré qui est fait avec le point 1, 0, le point 0, 0, le point 0, 1 et le point 1, 1. Bon, alors, je dessine pour la construction les tangentes. Et la courbe passe par ces points-là. En étant tangente ici, et remonte comme ça. Tangente là, et elle descend comme ça. Voilà. Elle ressemble donc, elle a quatre points dans ce modèle affine, plus un point à l'infini qui est le point pour lequel z égale 0. Donc, si vous faites z égale 0 et x égale 0, bien vous avez un point à l'infini qui est 0, 1 et 0. Donc, elle possède 5 points. On écrit que le cardinal, le nombre des éléments de E de Q est supérieur ou égal à 5 parce qu'il y a au moins 5 points. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas plus, mais il y en a moins 5. Alors, cette courbe est liée à une série très étrange. Voici la série, c'est la série FQ. C'est un produit défini par un produit infini de polynômes. Et on peut l'écrire, le développer en somme, et on trouve une somme de termes, dont le premier terme, c'est l'élément Q. Et les autres sont des puissances de Q avec des coefficients entiers. Alors, j'ai entouré les éléments dont l'exposant était un nombre premier. Et on voit que cette série est liée à la courbe d'une manière assez mystérieuse. Parce que lorsque je regarde, par exemple, le coefficient de Q à la puissance L, où L est un nombre premier, le coefficient de Q à la puissance L, je l'ai appelé AL. Donc je vois que AL, il est lié au nombre des points de la courbe. Lorsque je regarde cette équation, modulo L, c'est-à-dire que AL, c'est égal à P plus 1 moins le cardinal, j'écris avec un dièse, de FL. FL, alors ça, c'est la courbe réduite modulo L. C'est-à-dire que je regarde les équations, non pas comme des équations entre nombres entiers, mais entre classes d'équivalence de nombres entiers modulo L. Donc on a cette relation-là. Si par exemple je prends L égale 2, par exemple, eh bien la courbe se trouve plongée la courbe affine se trouve dans le plan F2 au carré. Parce qu'il n'y a pas d'autre classe modulo 2 que les nombres pairs et les nombres impairs. Comme dans une rue, il y a le côté gauche, il y a le côté droit, il n'y a pas un troisième côté. Donc le plan que j'ai dessiné là, c'est F2 au carré, il possède 4 points. Et la courbe passe par tous les points. Alors il y a un autre point à l'infini. Donc si L égale 2, eh bien tous les points de F2 sont sur la courbe, plus un point à l'infini, et ça donne A2 égale... Donc j'ai plutôt cardinal de E tilde A de F2 égale 5. Là, on voit bien que A2 qui est égal à moins 2 est égal à 2 plus 1, ce qui fait 3, moins 5. Et ceci est vrai pour tous les nombres premiers. Donc, la courbe et la série sont liées entre elles. Naturellement, si on oublie le produit infini, si on regarde que la somme infinie, Il n'est pas difficile de construire une grande quantité de séries qui possèdent la même propriété. Il suffit de bien choisir les coefficients qu'on met dans les ronds. Et ça, ça ne pose aucune difficulté. Mais il y a une sorte de comportement global de cette série qui est absolument extraordinaire, qui fait que... tous les coefficients de la série sont liés par une loi extrêmement forte. Ils sont interdépendants d'une manière tout à fait organique, comme dans un organisme vivant. En effet, si je pose f de z égale grand F de E à la puissance 2i pi z, alors pour que c'est un sens, il faut que la série converge. Donc, je vais prendre z dans le demi-plan de Poincaré, c'est-à-dire je suppose que la partie imaginaire de z est plus grande que 0. Alors, f, la fonction petit f est une fonction holomorphe dans ce demi-plan. Et elle possède la propriété de... elle s'annule à l'infini, elle tend vers 0 lorsque la partie imaginaire de z tend vers l'infini. Et en plus, elle possède la propriété très intéressante que f de az plus b sur cz plus d soit égal à cz plus d au carré, f de z, autrement, quelle que soit la matrice A, B, C, D. Donc on a une transformation homographique, c'est-à-dire un déplacement du demi-plan de Poincaré, pour la géométrie de Poincaré. Alors A, B, C, D, c'est une matrice à coefficients entiers, et qui est telle que 11 divise C. D'ailleurs, cette relation n'est vraie que si 11 est différent de f. Bon, donc il faut supposer que 11 divise c, et on a cette relation-là, qui est une propriété d'invariance. Ça veut dire que la forme différentielle f de z dz est invariante. Alors, invariante pourquoi ? Eh bien, pour le groupe de toutes ces matrices. Ces matrices forment un groupe, et le groupe des matrices en question... on le note, on peut écrire ici, c'est le groupe, on appelle ça un groupe modulaire, c'est le groupe gamma 0 de 11, parce que 11 joue un rôle dans la définition de ce groupe, il doit être tel que 11 divise C. J'ai oublié de dire qu'il faut que ça soit un vrai groupe, donc AD moins BC soit égal à 1, pour que les matrices soient inversibles. Donc il y a toutes ces conditions-là. Voilà. C'est... à un moment de sa carrière, Henri Poincaré, qui était un grand mathématicien français, avait inventé des fonctions automorphes qui généralisaient ce genre de fonctions d'une manière tout à fait abstraite. Et pendant 14 jours, il s'est assis à son bureau en essayant de démontrer qu'elles ne pouvaient pas exister parce qu'elles possédaient des propriétés de symétrie beaucoup trop riches pour exister. Et ce n'est que le 15e jour que finalement il a réussi à se convaincre qu'il avait tort, ces choses-là existaient bien. Donc, elles peuvent contredire l'intuition de grands mathématiciens. Alors, il se trouve que dans... j'écris STW, S c'est l'initiale du mathématicien japonais Goro Shimura, T c'est l'initiale de Taniyama, et V, c'est l'initiale du mathématicien français André Weil. Dans les années 55, Taniyama a énoncé dans un colloque japonais à Tokyo Nikko la conjecture selon laquelle toutes les courbes elliptiques à coefficient rationnel provenaient d'un monstre de symétrie analogue à la fonction grand F. Il provenait de la manière que j'ai décrite, en quelque sorte. Et il a dit ça d'une manière relativement vague, c'était exprimé d'une manière assez vague,
Et il travaillait à l'époque avec Shimura. C'était de jeunes mathématiciens du même âge. Malheureusement, Shimura est parti à Princeton et Taniyama est mort 3 ans après dans des circonstances tout à fait mystérieuses. Shimura admirait beaucoup Taniyama. Il disait que Taniyama avait le don de faire beaucoup d'erreurs, mais principalement dans la bonne direction. Alors, il avoue qu'il a essayé de l'imiter, c'est-à-dire apprendre à faire des erreurs, mais qu'il n'a jamais réussi à faire des erreurs et il n'a jamais réussi à faire de bonnes erreurs. Il n'a jamais réussi qu'à faire de mauvaises erreurs. Alors, cette conjecture de Shimura Taniyama est restée très, très, très longtemps en gestation. C'était une chose nouvelle. Et l'attitude de Shimura est absolument magnifique parce qu'il montre que Shimura, qui était un mathématicien tout à fait orthodoxe, était ouvert aux erreurs et aux idées nouvelles. Et si on compare à ce que dit l'épistémologue Thomas Kuhn au sujet des idées nouvelles, Thomas Kuhn dit que la science normale est une entreprise qui n'est pas dirigée vers les nouveautés et tend d'abord à les supprimer. Eh bien, on peut dire que Shimura n'était pas du tout perverti par la science normale qu'il pratiquait pourtant quotidiennement. Bien, alors voilà pour cette conjecture de Shimura Taniyama Vei qui va jouer un rôle extrêmement important. Maintenant, il faut que je parle d'un autre objet, c'est une structure de groupe sur les points d'une courbe elliptique. Alors, si je considère une courbe elliptique, je sais qu'elle possède un rationnel, je sais qu'elle possède un point, puisque l'ensemble des points rationnels n'est pas vide, donc il existe un point. Et on peut définir une structure de groupe sur la courbe en disant qu'on veut qu'à chaque fois qu'on a 3 points alignés, PQR, eh bien, la somme de ces points soit constante. Alors montrons vite comment on obtient une structure de groupe. Alors, je prends une courbe elliptique comme ça. Je prends des points P et Q qui coupent la courbe en un point R, puisque c'est une cubique, il y a un troisième point. Et puis je considère le point oméga. Je trace l'alignement oméga R et ici j'ai un troisième point S, à nouveau parce que c'est une cubique. Et alors, si je considère cette relation-là, ce souhait que les points alignés aient une somme constante, eh bien, j'obtiens que P plus Q, je note comme ça l'addition, plus R doit être égal à oméga plus S plus R, parce qu'ils sont alignés. Alors, si ça doit être un groupe, on doit pouvoir simplifier, puis comme oméga est le zéro, c'est l'origine du groupe, on veut que ça soit l'origine du groupe, eh bien, on voit que S est la somme des points P et Q. Alors, si je prends un modèle beaucoup plus traditionnel, qu'on appelle le modèle de Weierstrass, que celui que j'ai dessiné là, eh bien, on a le même genre de construction sur les points d'une courbe de Weierstrass. Alors voilà donc une courbe de Weierstrass, plutôt comme ça. Si je prends des points P, Q et R, eh bien je prends le oméga, et je ne sais pas trop bien où il peut être sur une cubique de Weierstrass, c'est-à-dire une cubique de ce genre-là. Mais je sais qu'il y a toujours un point à l'infini, donc je prends oméga à l'infini, très loin dans cette direction-là, et j'aligne le point à l'infini avec R, donc la somme, c'est le symétrique de R par rapport à l'axe. Donc P plus Q égale R, égale S. Donc on a une addition sur les points. Si on prend deux points rationnels, eh bien, on sait depuis très longtemps, depuis Newton en fait, que si P et Q sont rationnels, eh bien, le point R sera rationnel, donc le point S sera rationnel aussi. Bien, alors, une fois qu'on a une courbe elliptique, on peut s'intéresser à une structure finie qui est extrêmement importante pour toute l'histoire qui nous intéresse. On suppose que la courbe elliptique est E. On suppose que P est un nombre premier. Et E de P, c'est l'ensemble des points de la courbe elliptique, mais pas forcément rationnels. On peut les prendre dans le corps des complexes, tels que P ajouté à lui-même, petit P fois, soit égal à oméga. C'est-à-dire 0. Et on appelle ça, on appelle ça l'ensemble des points de P division de la courbe. Alors cet ensemble de points de P division, en fait, c'est un groupe. Et on démontre que ce groupe est isomorphe à Z sur PZ, 3Z sur PZ. Autrement dit, c'est un plan vectoriel sur le corps fini F. C'est donc quelque chose qui n'est pas du tout mystérieux, c'est un brave petit plan. Par exemple, si P égale 5, on obtient... Donc là, j'ai 0, 2, 4. Les classes de... Je ne mets pas des barres dessus pour aller plus vite. Donc 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Alors tous les points que je suis en train de marquer, enfin du treillis, correspondent au point de E de 5. Donc c'est un plan vectoriel. C'est un objet un peu inanimé, un peu inerte, un peu inintéressant. Bien, alors, maintenant il faut que je parle d'un troisième interlocuteur. C'est le corps des nombres algébriques. Et il faut que je parle du groupe de Galois absolu. Bien, alors je m'intéresse au groupe des automorphismes du corps des nombres complexes. Le groupe des automorphismes du corps des nombres complexes, c'est le groupe de toutes les permutations de cet objet, qui est quelque chose de très gros. Et ce sont toutes les permutations qui conservent l'addition et la multiplication. Alors c'est un groupe absolument monstrueux. Il est extrêmement grand et il agit sur tout ce qui se trouve dans le corps des nombres complexes, donc il lui donne une sorte de mobilité au corps des nombres complexes. On dit qu'un nombre complexe Z est un nombre algébrique si et seulement si il n'admet qu'un nombre fini d'images par l'action de ce groupe d'automorphismes. C'est-à-dire que s'il se construit une sorte de petite niche qu'on appelle une orbite, finie sous l'action du groupe des automorphismes. Donc ça veut dire que l'ensemble des sigma de Z, sigma élément du groupe des automorphismes de C, est fini. Bien. Donc, l'ensemble des nombres algébriques est évidemment un corps, parce que si EZ n'a qu'un nombre de d'image par les sigma, et si Z' est également un nombre fini d'image, il est clair que la somme des deux n'aura qu'un nombre fini d'image, de même que le produit des deux n'aura qu'un nombre fini d'image. Alors ça forme un sous-corps du corps des nombres complexes, qu'on appelle le corps des nombres algébriques, et le groupe de Galois absolu, c'est le groupe des automorphismes de Cubard. Bien. Alors, si je regarde justement le groupe, la structure finie, E de P, eh bien, il est clair que si sigma appartient au groupe de Galois absolu, groupe des automorphismes de C, eh bien, il est tout à fait clair que sigma de P est contenu dans EP. En effet, les questions d'alignement sont des questions rationnelles et le groupe des automorphismes conserve point à point tous les nombres rationnels. Il conserve le 0, il conserve le 1 et il conserve 2, donc par conséquent, il y a 1,5, etc. Donc, sigma de E de P est contenu dans E de P. Et par conséquent, tous les points de E de P ont des coordonnées rationnelles. Alors, ont des coordonnées algébriques, donc E de P est contenu dans E de Cubard. Bien. Donc, les points de cette structure finie sont des points algébriques. Mais alors le groupe de Galois absolu agit sur cet ensemble-là, et ce plan qui était un objet inanimé, donc se trouve, et ça fera plaisir à Lamartine, être doté d'une âme par l'action du groupe de Galois absolu, c'est-à-dire que le groupe de Galois absolu agit sur les points et les fait se déplacer. Alors on appelle ça une représentation galoisienne. C'est une sorte de miroir ou de télescope qui vous donne une image très grossière de cet énorme groupe de Galois absolu. Et en fait, si on prend une base de ce plan vectoriel, eh bien on obtient un homomorphisme du groupe de Galois absolu, qu'on appelle ρ, c'est une représentation, dans le groupe des matrices de 2, à coefficient dans FP. Voilà, donc c'est une représentation galoisienne. Bien, alors, je vais terminer brièvement. Alors, dans les années, à la fin des années 60, j'ai proposé d'associer une solution non triviale de l'équation de Fermat, une courbe elliptique qui est la suivante. Alors je suppose que la solution c'est ABC, donc ça vérifie la relation AP plus BP plus CP égale 0. Je suppose qu'ils sont premiers entre eux. Et la courbe que je fais correspondre, c'est la courbe Y2 égale X, X moins AP, X plus BP. Alors en fait, il y a deux courbes possibles, parce qu'on peut écrire ça de la même manière, BP plus AP, bien entendu. Donc on a deux courbes, on a EBAC, qui est Y2 égale X, X plus AP, X moins BP. Bon, et alors, un intérêt immédiat de cette construction, c'est qu'elle permet d'exprimer mathématiquement le fait que la solution est triviale ou pas triviale. Si le point est trivial, solution triviale, eh bien, ça veut dire ABC égale 0, alors EABC est une cubique non elliptique. Et autrement dit, si la solution est non triviale, alors EABC est une courbe elliptique. Donc, les points triviaux n'apparaissaient plus comme des objets qui déplaisent parce qu'ils ne sont pas beaux, mais des objets qui possèdent une propriété mathématique. Dans un cas, ils donnaient une courbe elliptique, dans l'autre cas, dans un cas, on a une courbe elliptique, dans l'autre cas, on n'a pas une courbe elliptique. Alors, ces courbes ont tout de suite été ressenties comme paradoxales. Elles ont tout de suite choqué les gens, très fortement. Et c'était normal, parce que finalement, elles ne vont pas exister. Alors, elles avaient des propriétés extraordinaires. Alors, une des propriétés, c'était qu'elles contredisaient... Alors, ça, c'est en 1969. Alors, elles contredisaient une conjecture qui n'a été énoncée que bien plus tard, la conjecture de Spirou, qui est de 1983, et qui est un peu technique. Bon, elle n'est toujours pas démontrée, elle est un peu technique. Bon, et puis d'autre part, la représentation du groupe de Galois absolu dans E de P était également paradoxale, elle était trop belle pour être vraie, disons. Bien, alors en 1984, Gerhard Frey à Oberwolfach, qui était un petit village de la forêt noire, a pensé pouvoir démontrer que si la courbe EABC, si la courbe EABC était une courbe de Weyl, alors le théorème de Fermat était démontré. Alors, elle ne pouvait pas exister. Il s'agit d'une chose qui a été décrite par l'Arioste dans Roland Furieux. Il parlait de la jument de Roland. La jument de Roland avait toutes les qualités possibles et imaginables. Elle était obéissante, etc. Mais il y a une seule qualité qui lui échappait, c'était l'existence. Et elle était morte, en fait. Alors, si on ajoute à la courbe ABC, qui sont merveilleuses, le fait supplémentaire d'être des courbes de Weyl, eh bien, n'existe plus. Et si elle ne pouvait exister, c'est que le théorème de Fermat ne pouvait pas avoir de solution non triviale. Bien, alors... cette chose-là est devenue la conjecture de... en fait, il y avait une erreur dans la preuve de Frey n'était pas parfaite. Par conséquent, c'est devenu une conjecture de Frey. Et la conjecture de Frey, c'était que la conjecture de Shimura Taniyama Weyl entraîne que EABC ne vérifie pas les conjectures de Jean-Pierre Serre. Alors il s'agit de Jean-Pierre Serre à sans S à la fin. Bien, donc ça c'était la conjecture de Gerhard Frey. Alors, quand le mathématicien américain Kenneth Ribet a entendu parler de ça, il croyait pas trop à la conjecture de Shimura Taniyama Weyl, parce que c'était un mathématicien sérieux, donc il n'avait aucune raison d'y croire, mais il a trouvé que c'était tout à fait excitant. Et puis, entre-temps, Jean-Pierre Serre a bien précisé ses conjectures. Donc, en 1986, Kenneth Ribet a démontré la conjecture de Serre. Autrement dit, le théorème de Fermat, qui entraîne le théorème de Fermat. Oui, Serre était conscient depuis très longtemps que ces conjectures appliquées à ces courbes-là entraînaient le théorème de Fermat. Bien, alors il ne restait plus qu'à démontrer évidemment cette chose-là, puisqu'il n'y avait plus de point d'interrogation. Donc on arrive à la dernière partie du plan qui consiste à se demander si on peut démontrer la conjecture de Shimura-Taniyama-Weil. Bon, naturellement, tous les gens un peu rationnels disaient que puisque la conjecture de Shimura-Taniyama-Weil entraînait le théorème de Fermat, c'est qu'elle était probablement fausse. Alors, personne vraiment s'est intéressé à la question, sauf Andrew Wiles. Alors, Andrew Wiles, qui est un spécialiste des formes modulaires et de la théorie d'Iwasawa, s'est mis au travail tout de suite, dès qu'il a su le résultat de Kenneth Ribet. Et bon, il s'est comporté à peu près comme Newton lorsque Newton rédigeait les Principia, il s'est enfermé, il ne voulait plus voir personne. Mais il savait énormément de choses, hein, d'ailleurs comme Newton, il connaissait toute la littérature sur le bout du doigt, et pendant 6 ou 7 ans, il a travaillé pratiquement tout seul. Et finalement, en utilisant des tas de résultats, et en particulier des résultats de Baring-Meser, qui est une sorte d'inspirateur qui est toujours là lorsque les gens ont des problèmes qui n'arrivent pas à résoudre, et puis avec l'aide aussi de Richard Taylor, il a réussi à prouver la conjecture de Shimura-Taniyama-Weil pour une classe de courbes elliptiques qui est suffisamment large pour contenir les courbes EABC. Donc le 19 septembre, parce qu'il a eu beaucoup d'ennuis, c'était très difficile, le 19 septembre 1994, Wiles a démontré la conjecture de STW pour une classe très large. De courbes elliptiques. Alors, cette classe très large, eh bien, ça entraîne le théorème de Fermat. Grâce au théorème de Ribet de 1986. Voilà. Alors, depuis, ça a été appliqué à beaucoup d'autres équations, et en particulier, la conjecture de Dienesch est tombée. C'est devenu un théorème d'Armon et Merel. Et puis, l'année dernière, en 1999, eh bien, STW est tombé complètement, a été complètement démontré. Alors, elle a été complètement démontrée par une équipe de mathématiciens, parmi lesquels se trouve Diamond, Richard Taylor, et puis Conrad, et un Français. Enfin, il y a quand même un Français, c'est celui qui a mis la dernière pièce à l'édifice, qui s'appelle Christophe Breuil. Voilà, bon, j'ai pas le temps de conclure, je crois que j'ai dépassé mon temps.
comme la conjecture de FTW est tombée l'année dernière en 19, est-ce que ça ne relancerait pas le programme de Lang-Lang Tunnel, enfin je prononce mal, oui, pour les représentations entre les, comment dire, les fonctions modulaires et puis les cobellitiques en général?
Oui, oui, et les formes, oui, les représentations galoisiennes et les,
oui,
et les
de
formes
rang 1 ou de rang 2.
Et les formes automorphes. Oui, eh ben, oui. Alors pour le rang 2, oui, tout à fait. Enfin, c'est une partie du travail avait été faite pour les représentations dont l'image est résoluble. Hein, mm-hmm. C'était Lang-Lang's Tunnel, justement. Mais les idées de Wiles permettent d'aller plus loin. En particulier, on peut s'intéresser à un grand nombre de représentations pour lesquelles l'image et le groupe icosaédrique. Et d'autre part, Taylor a travaillé à des représentations de degrés supérieurs à 2, donc dans GL3 ou N des décors qui sont intéressants pour ce genre de théorie. Oui, donc le programme de Lang-Lang ça a reçu une aide très, très forte parce que les méthodes de Wiles sont très puissantes et renouvellent le sujet. Oui.
Monsieur.
Merci. Est-ce qu'on peut être sûr qu'il n'y a pas de démonstration élémentaire, par exemple au sens, qui utilisera les méthodes connues à l'époque de Fermat?
Ben, non, on peut absolument pas être sûr. Non, ça c'est... Je crois que personne ne sera jamais sûr, sauf si un jour quelqu'un trouve une solution élémentaire. Voilà.
Bonsoir monsieur, je suis venu comme un badaud complètement ignorant, mais votre causerie est très intéressante, surtout par la phrase que vous avez écrite sur le tableau, trop belle pour être vraie.
Pour exister.
Pour moi, des mathématiques me semblent tout à fait des sciences rigoureuses et exactes. Donc, sur ce point de vue, quelle est la notion de beauté et de vérité dans les mathématiques? Merci.
Oui, il y a des ancêtres, enfin des gens avant moi qui ont parlé sur cette question, en particulier le célèbre mathématicien anglais Hardy, au début du 19e siècle. Et il disait qu'il y avait deux sortes de mathématiques. Il y avait les mathématiques laides et les belles mathématiques. Et il pensait que... il avait des idées peut-être un peu élitistes en ce qui concerne les mathématiques laides. C'était pour lui les mathématiques appliquées. Bon, mais en ce qui concerne les autres mathématiques, il pensait que la beauté était un critère de vérité. Il l'a dit, il l'a écrit tout à fait. Donc une théorie qui est belle a des chances d'être vraie. Inversement, si une démonstration est laide... la plupart des mathématiciens ont des doutes sur l'exactitude de la démonstration. S'ils arrivent à l'améliorer jusqu'à ce qu'elle devienne belle, à ce moment-là, ils croiront plus volontiers que la démonstration est exacte.
Est-ce que vous pensez qu'on comprend profondément ce qui se passe finalement? Est-ce que la démonstration permet la compréhension du théorème de Fermat finalement? Est-ce que elle est tellement compliquée et assez artificielle, finalement. Est-ce qu'elle touche à la nature des choses?
Oui, ça je crois, parce que elle a, c'est une démonstration qui remplace un cas isolé. Le théorème de Fermat a été considéré comme inintéressant par de grands mathématiciens comme Gauss ou Faltings récemment, parce que c'était une énigme isolée. Cette démonstration... et s'applique à une grande classe. Vous voyez, il y a la conjecture de Nienesch, mais il y en a bien d'autres. Il y en a énormément d'autres qui tombent et qui auraient été tout à fait aussi remarquables, aussi difficiles, si Fermat avait voulu les écrire dans la marge de Diophante. Et on a l'impression d'avoir remplacé un problème de nature un peu mythique par un vrai problème scientifique, c'est-à-dire, c'est une science du général qu'on a obtenue. Et également, la théorie est falsifiable, c'est-à-dire qu'on peut trouver, on peut en prendre des équations qui ont des solutions, on peut construire des équations du même type qui ont des solutions. Et donc, il faut trouver Quand les équations ont des solutions, le problème devient beaucoup plus difficile. C'était le cas pour la conjecture de Dienège, d'ailleurs. Donc, il faut trouver à ce moment-là à raffiner la théorie pour tenir compte des solutions qui se trouvent là. Disons qu'on approche, mais vous savez, l'article de Wiles qui se trouve ici, d'ailleurs, c'est un très gros article. C'est un très gros article qui a été qui est divisé en 5 chapitres. Et chaque chapitre, il y avait un article antérieur qui était en 6 chapitres d'ailleurs. Chacun des 6 chapitres était confié à une équipe spéciale de référis. Donc c'est un travail qui a été vérifié par des spécialistes, chapitre par chapitre, en quelque sorte. Donc... C'est plutôt les utilisateurs de cette théorie qui ont peut-être la sensation d'approcher de la nature des choses que les théoriciens qui ont travaillé finalement sur des problèmes très techniques. Il s'agissait, pour reprendre une image de Jean-Pierre Serre, de gravir une paroi très verticale. C'est ce qu'a dû faire Wells. Et il y avait qu'une seule prise qui était absolument minuscule. Et bon, ben, Wells en a profité, puis ensuite il a fait des rétablissements extrêmement extraordinaires pour essayer d'aller un peu plus loin. Et il a eu beaucoup de mal, mais grâce à des procédés techniques très, très performants et qu'il a dû inventer sur place, enfin, bon, il a réussi à gravir sa paroi. Mais bon, ça répond à votre critique. Mais pour les utilisateurs, une fois qu'ils ont ce théorème de structure, c'est un théorème de structure. Toutes les courbes elliptiques proviennent d'une forme modulaire. Une fois qu'on a ce théorème, on a l'impression de mieux comprendre la nature des choses. Oui.
Monsieur.
Juste une question technique. Vous avez marqué au tableau Ribet donc démontre la conjecture de Serre qui entraîne le théorème de Fermat. Et ça, je n'ai pas compris. Enfin, c'est-à-dire que je ne sais pas exactement où est le sixième mont. Et donc le Ribet qui démontre la conjecture de Serre. Oui, par rapport au théorème de Fermat.
Oui, alors disons que le cinquième mont, c'est Ribet qui démontre la conjecture de Serre pour ces courbes-là, qui sont des courbes elliptiques particulières. Donc il a démontré la conjecture de Serre. Ah, elle est là-haut. Je me dirigeais à l'oreille. Oui, et donc il a démontré la conjecture de Serre pour les courbes qui étaient importantes pour le théorème de Fermat. Et une fois qu'on a démontré la conjecture de Serre, oui, c'est un point que j'ai dit d'une manière beaucoup trop elliptique. Serre savait depuis longtemps, c'est pour ça qu'il avait des doutes sur ses conjectures, je crois, que ces conjectures entraînaient le théorème de Fermat.
Et pour une classe plus large de courbe.
Non, pour la même classe, c'est des courbes qu'on appelle semi-stables. Donc les courbes ABC sont des courbes semi-stables, et donc Serre savait que la conjecture de Fermat est entraînée pour sa conjecture lorsqu'on la connaît pour les courbes semi-stables, en particulier les courbes ABC.
Et quel est l'apport de Wiles dans ce cas ?
Bien, c'est de démontrer la conjecture de Shimura-Taniyama-Weil, c'est-à-dire que puisque ce qu'a fait le théorème de Ribet, c'est un théorème conjecturel, c'est-à-dire de dire que si une conjecture est vraie, à ce moment-là, le théorème de Fermat est démontré. Et Wells a démontré que la conjecture STW était bien vraie.
S'il vous plaît, monsieur, dans la mesure où vous avez eu l'occasion de lire un ouvrage d'un ingénieur physicien nucléaire paru sous le titre « Le dernier théorème de Fermat » chez Lattès il y a 2 ans en traduction française. Pourriez-vous nous dire ce que vous pensez de cette histoire du nombre du théorème de Fermat ?
Oui, excusez-moi, mais je n'ai pas eu l'occasion de le lire.
Je vous en prie.
La conjecture de Fermat qui est devenue un théorème s'applique au nombre réel. Or, vous nous avez présenté un mécanisme de démonstration extrêmement complexe que je n'ai pas suivi en totalité, mais où vous faites référence au corps des complexes. Ma question est alors la suivante. Est-ce que les axiomes qui définissent le corps des réels n'est pas finalement mis en cause par l'intervention de domaines mathématiques qui ne sont plus, qui ne répondent plus au domaine des réels. Et est-ce que dans ces conditions, il n'y a pas d'une certaine manière une démonstration du théorème de Gödel's qui dit qu'à partir d'un certain nombre d'axiomes, on ne peut pas tout démontrer?
Oui, je voudrais préciser que j'ai plongé le corps des rationnels dans le corps des complexes pour des raisons de commodité pédagogique. J'ai mis les réels à l'intérieur des complexes, parce qu'on sait que les réels sont un sous-corps des complexes, et également d'une manière assez naturelle. Mais le théorème de Fermat, en fait, ne concerne, c'est un théorème qui concerne les nombres rationnels. Donc, les nombres rationnels, on pourrait presque tout faire sans parler du corps des complexes, je crois, sauf même. Enfin, on pourrait faire un grand nombre de choses. Le personnage important, ce n'était pas le groupe des automorphismes du corps des complexes, mais le groupe des automorphismes de Cubard, hein, c'est-à-dire le groupe de Galois absolu. C'est lui vraiment le personnage important. Et il n'a rien à voir ni avec les réels, ni avec les complexes. Il peut être défini autrement.